terror states.
Et non, je ne suis pas un terroriste, 177e divergence numérique, encore une fois en solo, mais c'est prévu, c'est promis. Pascal sera de retour avec nous jeudi prochain pour une émission spéciale dont on vous parlera en compagnie d'Alexis Kaufmann de Framasoft, mais ce sera la semaine prochaine pour l'instant. Après la revue de presse de l'April, on reviendra eh bien, sur le décès de Albert Jacquard qui nous quitte l'esprit libre, l'occasion de le réécouter s'exprimer sur la propriété intellectuelle. Il est décédé à 87 ans, il avait la clairvoyance de soutenir le libre et d'affirmer comme Richard Stallman qu'il n'existe pas de propriété intellectuelle. Et puis nous aurons aussi au téléphone Michel Aslagnan, vice-président de Montpellier Agglomération, à propos du premier hackathon Montpellier Unlimited. C'est bien, c'est du hack, pas forcément du libre. Et puis côté musique, eh bien on aura L'Oximo Boys, Zoé Lila, Professeur Click ou encore Fresh Body Shop.
Liberté, égalité, fraternité.
Une majorité de la société mise en esclavage.
Que l'argent public doit payer qu'une fois.
Et là, c'est la voix du peuple qui a parlé.
Revue de presse hebdomadaire.
2 de l'April.
So it is not just a free software problem.
Une volonté politique de prendre le contrôle du net.
Privatisation de ce bien commun.
Des mouchards dans nos ordinateurs.
Des coups de boutoir contre la neutralité du réseau.
Revue de presse de l'April, semaine 37, année 2013. Salut Manu.
Salut Luc.
Alors parle-nous du sommaire, s'il te plaît.
Petit sommaire, 6 articles principaux. Donc on va vous parler de chiffrement, des dépenses logicielles de l'État, encore une fois, les amendements sur la vente liée au Parlement, Albert Jacquard qui a passé l'arme à gauche, l'open source et l'économie en France. Et pour finir, on reparle du gouvernement québécois et d'une association qui s'appelle Facile, qu'on aime bien suivre.
Le chiffrement maintenant, partie 3, un article de Mikali, traduit par le Framablog.
Donc c'est un article parmi d'autres, et en fait c'est plus même une partie d'un livre qu'il va falloir tous qu'on lise.
Ah bon ?
Et oui, parce que le chiffrement, c'est maintenant, et c'est super important parce que bah, vous avez dû suivre un petit peu cet été. On se fait espionner à tour de bras, et ça continue. Hein. Il y a encore des révélations dont je viens de lire les rebondissements en Belgique et dans les Pays-Bas. Ils viennent de découvrir des backdoors installés par...
Oui, les NSA auraient piraté les fournisseurs d'accès, c'est ça ?
Voilà, toutes les télécoms, ils auraient fait des trucs assez, assez chiadés, qui coûtent de l'argent, des ressources, qu'ils n'ont pas directement dit que c'était la NSA, mais en gros, c'est ça dont il s'agit. On le sait, hein, on se fait tous surveiller. On n'aime pas trop ça. Première solution, vous coupez vos fils, vous éteignez vos ordinateurs et vos téléphones portables et vous ne communiquez plus que par la voix. Ça marche. Mais pour les autres, pour nous, hein, on a un peu de mal.
Voilà, qui sommes sérieusement dépendants à la technologie, à Internet et tout ça.
Surtout toi. Donc, sérieusement dépendants que nous sommes, bah, on n'a pas beaucoup, beaucoup de solutions, si ce n'est une qui existe depuis déjà longtemps, mais qu'on n'utilise pas malheureusement, c'est le chiffrement.
Ouais, mais c'est quand même compliqué, non ?
C'est parfois compliqué. En plus de ça, il y a plein de niveaux, il y a plein de techniques qui ne s'appliquent pas toujours dans les mêmes conditions. Déjà, il faut commencer à creuser dessus. Pour ceux que ça intéresse vraiment, il faut savoir, c'est des mathématiques. C'est des opérations mathématiques.
Toi, tu sais donner envie.
Ça fait envie, mais et l'article le présente assez bien. J'aime beaucoup cette façon de dire, voilà, vous appliquez une équation dans un sens, vous l'appliquez dans un autre, et vous pouvez donc chiffrer quelque chose et le déchiffrer ensuite. C'est pas mal. Vous avez des clés comme une serrure et vous pouvez envoyer quelque chose à quelqu'un et il n'y a que cette personne qui pourra le lire ou au contraire vous envoyez quelque chose à quelqu'un et cette personne saura que c'est vous qui l'avez envoyé. C'est souvent une des les deux bases qu'on peut utiliser, la signature et le chiffrement lui-même.
C'est un bon article de vulgarisation et
c'est
qui à la fois
bon
parle, qui raconte comment ça marche et qui en même temps donne des exemples concrets de surveillance et d'espionnage. Et donc on est à la fois dans l'apprentissage de comment ça marche, qu'est-ce qui se passe sur le terrain en vrai et comment on peut effectivement chiffrer ces données.
Alors c'est pas un article tout seul, encore une fois, il y en a déjà deux autres précédents et il faut aller aider les gens du Framablog parce qu'ils aiment bien faire ça, mais ils ont besoin d'aide. C'est il faut aider à traduire, à mettre en forme un peu tout ça, parce que ça vient d'un texte beaucoup plus conséquent. Et je pense que en allant le traduire, vous apprendrez plein de choses, ça peut faire du bien.
Numérama, l'État lève une partie du voile sur les dépenses logicielles. Bon, c'est le énième épisode de cette histoire qui se déroule au Parlement, donc une députée, Isabelle Attard, qui a posé des questions à chacun des ministères pour savoir combien ils dépensaient en logiciel et combien ils dépensaient en logiciel libre plus spécifiquement.
Et oui, c'est comme la danse des voiles, on en a un chaque semaine. C'est pas mal, moi j'apprécie parce qu'on voit un petit peu ce que ça nous coûte. Et même s'ils n'ont pas, et ils s'en plaignent, de comptabilité analytique très précise, pas tous en tout cas, bien, ils arrivent à remonter cas 1, cas 1, les quelques chiffres et à essayer de séparer entre les logiciels privateurs et les logiciels libres.
Bon, l'article ne nous apprend pas grand-chose, hein. Il fait un bilan des ministères qui ont répondu, ceux qui n'ont pas répondu. Et bon, voilà, ça permet de faire un petit point d'étape. ZDNet, vente liée, réaction à l'étouffement des amendements au Sénat, un article de Thierry Noisette. Donc là encore, on fait le service après-vente.
Et oui, et on se fait bien avoir. Vente liée, mais j'ai aussi entendu parler de vente forcée. Je sais que tu as creusé sur le sujet.
C'est un des sujets qui fait débat. On en avait parlé la semaine dernière en disant qu'effectivement, il y avait des amendements qui étaient ressortis là-dessus et qu'on attendait de voir, mais qu'on ne s'attendait pas à des miracles non plus. Bah, on n'a malheureusement pas été surpris. Le gouvernement s'est débrouillé pour faire sauter ça et de façon un peu détournée et pas très propre.
Oui, hein, ils ont même contourné le rapporteur qui n'a pas eu le droit de dire ce qui s'était pas vraiment passé en commission. Et,
Le rapporteur, en gros, il y a une commission de parlementaires qui se réunit, qui étudie le sujet un peu plus à fond, puisque évidemment les députés peuvent pas être experts en tout, c'est pas possible. Et donc le rapporteur vient dire quel est le bilan de leur étude. Et donc le truc a été voté avant que le rapporteur puisse s'exprimer. Et le président de séance a dit non, c'est bon, on va continuer comme ça, c'est voté. Donc premier truc, il a pas pu s'exprimer alors qu'il était pour les amendements, et que c'était un peu le bilan des commissions. Un des trucs reprochés, c'est cette confusion par amont entre la vente liée et la vente forcée. Donc derrière des petites subtilités, la vente liée, c'est l'idée qu'un produit soit vendu à un certain prix uniquement dans des conditions où on est obligé d'acheter autre chose avec. Donc supposons qu'on veuille acheter un logiciel, pour l'avoir à pas cher, on est obligé d'acheter l'ordinateur qui va avec. C'est de la vente liée. C'est-à-dire qu'on peut l'avoir par ailleurs, genre Windows par exemple, mais on va payer Windows en version boîte, c'est-à-dire sans l'ordinateur, beaucoup beaucoup plus cher que si on l'achète avec un ordinateur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de la vente liée. C'est on veut un produit à un prix donné, et pour l'avoir en objet d'acheter autre chose. La vente forcée, c'est un peu le phénomène inverse. C'est-à-dire que vous voulez un ordinateur, et on vous refourgue par-dessus des trucs que vous n'avez pas demandé, et sans vous donner le prix, donc vous achetez un ordinateur, vous avez un Windows avec, vous savez pas combien il coûte, vous en voulez peut-être pas, de toute façon vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de le prendre.
Et ce qui était bon dans la politique hein, de ces derniers mois, c'est que le gouvernement actuel avait dit qu'il était plutôt pour ouvrir tout ça et permettre au
Hollande lui-même avait fait une promesse là-dessus.
Donc là, on s'attendait à ce qu'il continue un petit peu dans cette zone.
On espérait,
et on espérait fortement, et on s'est fait couper l'herbe sous le pied. Alors, certains disent même que Hamon a fait mentir Hollande et qu'il lui a fait faire le contraire de ce qu'il disait. Donc il y a vraiment des cris d'orfraie sur tout cela, des gens qui appellent au mensonge, tout simplement. Rien de moins.
C'est le cas de la Dulacte, hein, qui. Il y a une citation dans l'article qui en ment beaucoup au Sénat par les temps qui courent.
Et les réactions des associations et des différents acteurs du libre et de l'informatique se sont montées.
Bah, l'article nous remonte trois réactions. Celle de la Dulacte. Hein, donc la Dulacte, c'est effectivement plus orienté professionnel, mais ils sont quand même très très en colère. Donc c'est eux qui pointent notamment cette question du mensonge, et en citant notamment la promesse de Hollande qui était « Je laisserai aux utilisateurs la possibilité de choisir leur logiciel. L'évolution technologique des dernières années a permis une baisse considérable du prix des composants matériels informatiques. Les prix des logiciels associés n'ont en revanche pas diminué, et l'absence de visibilité de ce prix nuit à l'information des consommateurs et les empêche de faire jouer la concurrence. » Ce que j'ai lu, c'était ce que Hollande avait dit, et donc Hamon a déduit de ça que ça ne concernait que les professionnels. Donc réaction de la Dulacte, des promesses pas tenues, c'est grave. Ici, c'est d'autant plus pitoyable qu'il y a de l'argent public derrière. On nous dit que le logiciel libre, c'est important pour la France. On est cité en exemple dans la circulaire Hérault. Mais quand ça passe au concret, on s'aperçoit qu'il vaut mieux être une grande entreprise étrangère qu'un consommateur français. Donc c'est quand même violent, quoi.
Et il y avait quoi d'autre comme réaction
encore ? Alors il y a la FUL, ils sont assez cinglants et assez moqueurs, puisqu'ils traitent Benoît Hamon de Pinocchio. Ils ont même lancé un hashtag sur Twitter là-dessus, donc qui est dièse Pinocchio Hamon. La citation :
Monsieur Benoît Hamon et ses collaborateurs ont donc décidé de soutenir les intérêts des grands éditeurs de logiciels grand public, principaux bénéficiaires de la vente forcée actuelle et dont les profits réalisés en France esquivent l'impôt français. Monsieur Hamon est allé jusqu'à rappeler les condamnations de Microsoft par l'Europe à propos du navigateur pour justifier de ne rien faire aujourd'hui.
Ce qui est d'une logique implacable. Nous, de notre côté, l'April, on a également eu des réactions en disant que c'était un argumentaire honteux. Ce côté mauvaise foi a vraiment fait tiquer et a été vraiment très très visible. Et donc, on a estimé que Hamon avait noyé le poisson, notamment sur cette question vente libre, vente forcée, etc. Il a tout fait pour embrouiller les gens. Donc, c'était vraiment, vraiment de la magouille.
Oui, je pense qu'on peut dire, hein, on est déçu que pour une deuxième fois, le Sénat Sénat, dans ce qu'on en sait, avait proposé des bonnes choses et ça a été mis à la trappe.
Moi, ce que je retiens de positif de ça, c'est qu'ils sont obligés de mettre en œuvre des trucs de plus en plus acrobatiques, des machins de plus en plus tordus qui se voient de plus en plus. Et par le passé, ils disaient juste non et tout le monde s'en foutait. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Et ils sont obligés de, voilà, de prendre des chemins de traverse. On sait que pour le passage des pouvoirs de la DOPI vers le CSA, ils vont probablement faire ça en loose day très prochainement. Malheureusement, les choses ne tournent pas comme on veut, mais ils ont de plus en plus de mal à faire ça au grand jour, tranquillement, etc. Donc on peut espérer qu'à terme, ils finissent par lâcher le morceau. Numérama, le généticien Albert Jacquard, détracteur de la propriété intellectuelle, est décédé. Un article de Julien L.
Donc un bon article qui rappelle voilà, le parcours du généticien. Et moi, c'est un autre truc que j'avais lu, c'est qu'avec sa mort, le QI français moyen est retombé à 80.
Oui, c'est une blague. Mais bon, voilà. Donc, effectivement, Jacquard, il est quand même très connu. Il s'était beaucoup engagé aux côtés des associations qui luttaient contre les problèmes de logement, par exemple. Et ce qu'on sait moins, c'est qu'il avait effectivement également pris des positions sur les questions de la propriété intellectuelle, en dénonçant ça comme une sorte d'escroquerie. Hein. Il avait été notamment approché par Libre Accès, qui avait organisé tout ça. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, effectivement, il était apparu très fatigué. Il a fait aussi des conférences aux côtés de Richard Stallman, enfin au moins une. Et en dépit du fait qu'il était malade et déjà très fatigué, il est quand même venu. Et c'était quelqu'un qui était vraiment admirable pour ça.
Oui, il défendait pas mal l'idée que les idées ne sont pas des propriétés. Donc il attaquait un peu tout ça, il donnait des bons exemples, il est très didactique. J'aimais beaucoup sa comparaison avec l'arc-en-ciel, où il disait, voilà, on peut le voir, on peut le percevoir, mais on peut pas le posséder. Et c'est pareil avec les idées, donc il y avait vraiment des bonnes choses. C'est dommage qu'il soit parti. On va chercher un nouveau héros.
Voilà, c'est pire qu'on ne peut pas le posséder, c'est qu'il n'existe pas, l'arc-en-ciel.
Oui. Là, forcément, allez mettre la main dessus, mais c'est ce qu'on fait avec les lois aujourd'hui. On crée des lois, la propriété intellectuelle, soi-disant. Donc, un grand défenseur qui vient de partir.
Voilà. En tout cas, ce qui reste, c'est les conférences et tout ce qu'il a pu dire. Donc, allez chercher un petit peu ça sur Internet. Vous trouverez des tas de choses très intéressantes. Le Cercle des Échos, l'open source, un nouveau modèle économique pour la France. Un article de Philippe Montargès.
Donc, ça fait partie d'une suite d'articles qu'on a prédit, hein, qui se met en place avant l'Open World Forum. Et donc là, l'auteur, c'est un dirigeant d'entreprise. C'est Alterway, il me semble.
Alterway, tout à fait.
Et donc, quelqu'un de très bien, qui fait du libre en gros, pour l'essentiel.
Ouais, très bien, sans doute. Comme n'importe quel chef d'entreprise, il prêche pour sa paroisse et il essaye de faire de la pub pour ses trucs. On parle souvent de tribunes dans les Échos qui maintenant apparaissent régulièrement sur le logiciel, ce qui n'était pas le cas avant. Donc là, c'en est une autre. Donc, alors évidemment, il y a toujours un petit côté pub, c'est normal. Mais il y a quand même des idées souvent qui sont intéressantes. Et là, c'est le cas, effectivement. Et il propose le logiciel libre comme une sorte de modèle économique, de nouvelle économie, de vraie nouvelle économie. Et je trouve l'idée intéressante. C'est une idée qui me plaît beaucoup et depuis longtemps. Et qui est de dire qu'on peut avoir une voie de développement et une forme de système alternatif pour sortir de l'impasse dans laquelle on est aujourd'hui.
Alternatif, pas complètement, parce qu'il parle encore, de compétition, d'économie, on reste dans les modèles classiques.
C'est un chef d'entreprise.
C'est juste que pour être compétitif au niveau des entreprises et aussi au niveau de la France, eh bien, il faut investir là-dedans et il faut utiliser ces technologies-là plutôt que les logiciels propriétaires que, certes, on est supposé acheter qu'une fois à un moment donné. Et justement, c'est ce qu'ils prônent. Hein,
jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle version qui force à changer. Ouais.
Et puis qu'on accumule une dette technique qui devient impossible à gérer. Non, justement, lui, il préconise et il reconnaît que c'est ce qui se passe dans beaucoup d'entreprises. On passe sur un modèle d'exploitation où on exploite du logiciel libre sur lequel on doit investir constamment, qu'on maîtrise, qu'on sait gérer et avec lequel on sera efficace. Et pas juste faire un one-shot, j'achète des licences d'un truc que je ne maîtrise pas du tout, qui au contraire va me plomber avec les années qui viennent, qui va être blindé de trous de sécurité, qui va avoir des fonctionnalités pourries et qui va me coûter de l'argent comme une forme de raquette. Non, au contraire, là, passer sur des choses beaucoup plus compétitives. Bon, bien sûr, hein, il va pouvoir vous vendre le service qui va avec.
C'est certain. Donc là, ça démontre un des points très très forts du logiciel libre, c'est que dans le logiciel libre, on a à la fois des communautés, des gens qui sont des bénévoles qui font des trucs parce qu'ils y croient, des gens qui y croient sans doute également, je pense pas qu'ils seraient lancés là-dedans autrement, mais qui sont voilà, dans une démarche business, et c'est pas du tout incompatible, et parce que la licence est libre et que le code est libre, et ben les deux peuvent cohabiter sans qu'il y en ait un qui mange l'autre.
Et on applaudit.
Direction informatique. Informatique libre, le gouvernement québécois a échoué selon Facile, un article de Benjamin Gébrac.
C'est pas un gros article, c'est plus une tribune contre le gouvernement québécois.
Oui, bah, on parlait beaucoup de ce qui se passait au Québec avec justement cette association Facile qui est tenue par un type qui s'appelle Cyril Béraud, qui a également une entreprise dans le domaine, qui était très active, et le gouvernement québécois devait renouveler tout son parc informatique, purement dans ce que tu expliquais tout à l'heure, hein, ils avaient tout sous Windows XP, Microsoft dit « Coucou, on arrête Windows XP », et donc il faut tout remettre à zéro, tout reconstruire à partir de zéro, donc un très très gros chantier.
C'est une bascule énorme qui coûtait, je crois que c'était de l'ordre du milliard. Hein.
Oui, facile. Et lui disait, bah, passons au logiciel libre, ça va coûter moins cher, on aura plus d'indépendance, on se retrouvera pas comme ça face à des grosses étapes.
Et il a fait plus que le dire, il les a mis au tribunal parce qu'il y avait eu un appel d'offres qui citait Microsoft, et il a fait tomber l'appel d'offres.
Et oui, et il y a eu également un changement en termes de pouvoir, hein, le gouvernement a changé, et il y avait eu des lois qui étaient passées en faveur du logiciel libre. Et son constat aujourd'hui, il est plutôt amer, c'est que en dépit de tout ça, il ne s'est rien passé. Il dit qu'il y a des tas d'appels d'offres qui sont passés, qui sont illégaux, parce qu'ils citent directement, enfin ils contournent le choix en citant directement la solution qui doit être proposée, enfin en prenant bien sûr une solution propriétaire, et en citant également un appel d'offres sur lequel il y a carrément une procédure pour corruption, donc quand même des gros morceaux.
Oui, alors il y a quand même une attente, il y a une équipe d'expertise qui a été mis en place sur le libre au sein de ce gouvernement. On peut espérer ouais. qu'ils vont sortir des capacités plus fortes et des préconisations. Enfin,
on sait que c'est une des grandes méthodes pour enterrer un problème, en fait, une commission,
et
les gens réfléchissent.
Voilà. Mais
pour l'instant, le reste avance.
Il laisse ouvert cette porte-là, on peut espérer que ce sera un chemin qui sera pratiqué. Mais c'est vrai que oui, il y a de l'amertume dans cet article, c'est bien embêtant.
Très bien, Manu, merci.
À la semaine prochaine.
Au revoir tout le monde, salut.
C'était la revue de presse de l'Association pour la promotion et la recherche en informatique libre, l'APRIL, proposée par Luc Fievet et Manuel Charpentier. Et on les remercie bien pour cette revue de presse. À présent, extrait de l'album Superstar Music Album, produit par Adon. C'est l'Oxymo Boys avec Shorty Wanna Ride, avec un featuring de Sly Cat. C'est sous licence Creative Commons by SA 3.0.
Ride with a gangster, I think of them haters try to take my bread like they bankers. But I got a shorty to cross all my angles and break their ass off. Ball players break ankles. Yeah, my shorty got a quick temper. When she sees that I'm fed up, that's when I'm putting lead in her. She hangs on my side and we ride. She took a day off, then baby we die. Keep her ass polished, respect me as an artist. Especially when these haters talk garbage. Never one night stand, two twos by the nightstand. Every night, man, cause I hate a mic plan. Do a robbery, what? And then I'll probably wake her up out of bed to do a job with me. 22s, 38s, no lottery. Snapshots like photography. Woo! Shorty's more than a girlfriend. She's a blast, leave a hater in the whirlwind. Put holes in the wall, even Berlin. Yeah, my shorty bang, you never ask where my girl's been.
Shorty wanna ride with me. Shorty gonna fly for me. Cause she know I'ma keep it OG. Shorty wanna ride with me. Shorty wanna ride with me. Shorty gonna fly for me. Cause she know I'ma keep it OG. Shorty wanna ride with me.
Cuando agarro mi morena, los haters se alejan. Y cuando me modela, que nadie se mueva. Me gusta salir donde nadie le espera. Por eso en la corte tengo par de problemas. El primer día que salimos me gustó. Porque me sacó de compra y un peso no gastó. Después de ese día como que me acostumbró. Mueve en el club, lo aro para el club. Si tiene mi baúl lleno de televisión. Por favor no te metes en esta relación. Y enferma, nerviosa, no ponga presión. Sin decir una palabra, rompe el corazón. No te pases de la raya, te sobra un besito y apuesto que te caiga. Por eso los frecos son pocos que se salvan. Mi shorty está conmigo, mi shorty nunca falla.
Shorty wanna ride with me. Shorty wanna die with me. She know I'ma keep it OG. Shorty wanna ride with me. Shorty wanna ride with me. Shorty wanna die with me. She know I'ma keep it OG. Shorty wanna ride with me.
Shorty wanna ride with me. Gonna fly for me. She know I'ma keep it OG. Shorty wanna ride with me. Shorty gonna ride with me. Shorty gonna fly.
Le Kiksimo Boys, Shorty Wanna Ride, avec un featuring de Sly Cat. C'était sous licence Creative Commons by SA pour cette 170e divergence numérique où on peut déplorer le départ d'Albert Jacquard qui s'était exprimé autour de cette notion bizarre de propriété intellectuelle. Et il réagissait justement à l'introduction de Richard Stallman. C'est sur politoscope.tv, des images de cassandre.org réalisées par Jérémy Nestel et Joseph Paris, avec une petite musique introductive de Nahar Naoud sous licence Art Libre. La transcription intégrale est lisible sur le site de l'April, sur l'article de cette émission divergence-fm.org. Richard Stallman, programmeur militant à l'origine du projet GNU et de la licence publique générale.
Il y a beaucoup d'expressions de propagande qui sont des mauvais noms. Et quand il y a un mauvais nom, c'est facile à corriger, on choisit un autre nom. Donc si eux disent pirate, ou piraterie, moi je dis partage. C'est facile, remplacer un nom par un autre nom. Mais le problème avec ce faux concept de, entre guillemets, propriété intellectuelle est beaucoup plus profond. On ne peut pas dire la chose que les autres appellent la propriété intellectuelle parce qu'il n'y a pas de telle chose. Cette chose n'existe pas. Voici l'erreur, voici la confusion. Donc remplacer le nom ne suffit pas et dire la chose que les autres appellent propriété intellectuelle ne suffit pas parce que l'erreur est dans supposer qu'il y ait une telle chose.
Albert Jacquard, généticien, à propos du terme propriété intellectuelle.
C'est un mot que je trouve extrêmement dangereux. En écoutant Feldman, j'avais une image qui s'imposait à moi, c'est celle de l'arc-en-ciel. Quand on parle de l'arc-en-ciel, de quoi parle-t-on? Et on peut se disputer pour savoir où commence cet arc-en-ciel, où il va, etc. Toutes questions qui sont absurdes, puisque on parle d'un arc-en-ciel comme s'il existait. Or, on sait maintenant, bien sûr, qu'il n'existe pas. Mais le simple fait de parler d'un arc-en-ciel est en train de nous propulser dans une direction qui va nous faire dire des sottises. Et on posera la question, mais où commence-t-il, où s'arrête-t-il, quel est le nombre des couleurs, etc. Et on dira n'importe quoi. Autrement dit, chaque fois que je parle d'arc-en-ciel, je parle d'un objet dont je peux dire que je l'ai perçu, mais dont je ne sais pas pertinemment qu'il n'existe pas. Par conséquent, je ne vais pas élaborer toute une législation à propos des arcs-en-ciel. À qui appartient-il cet arc-en-ciel que vous voyez, que moi je vois? Je l'ai vu avant vous, vous l'avez vu après moi, c'est moi qui suis le premier. C'est de l'absurdité. Et c'est cette image-là qui s'imposait à mon esprit lorsque j'ai écouté le discours qu'on vient d'entendre et qui est magnifiquement clair. Autrement dit, derrière le mot propriété intellectuelle se camoufle au fond le désir de tromper. Parler de propriété intellectuelle, c'est parler de propriété d'idées, d'intelligence, et à chaque fois on ne sait plus de quoi on parle. Mais on peut imaginer que c'est la propriété, c'est le droit de possession qui va être exclusif sur un certain nombre de raisonnements. C'est ça que j'appellerais la propriété intellectuelle, c'est le fait que pour utiliser les résultats de telle ou telle activité de l'intelligence, je dois payer ou pas, ne pas payer. Au fond, propriété signifie mise à l'intérieur du système économique. Autrement dit, mise donner du sens à la valeur d'une idée, ce qui est une idée assez pittoresque, complètement absurde. Quelle est la valeur de la poussée d'Archimède? C'est une idée extraordinaire qu'a eu Archimède, de remplacer un objet par la quantité d'eau que l'on peut mettre à sa place. C'est très astucieux. J'imagine Archimède s'apercevant de ce qu'il a découvert et ayant fait suivi des cours d'économie, disant « Mon idée, voilà ce qu'elle vaut. » Évidemment, c'est absurde. Eh bien, pour moi, propriété intellectuelle, c'est complètement à côté de toute réalité. D'autre part, l'activité intellectuelle, comment est-ce qu'elle se déroule? Comment est-ce qu'elle peut déboucher sur le monde de l'appropriation? Ça me semble invraisemblable, étant donné que quand l'un d'entre nous a une idée, elle lui vient à l'esprit, comment peut-il dire que c'est lui qui l'a trouvé ou pour un autre? Tous ceux qui écoutent leur propre activité intellectuelle se rendent compte que ce qu'il y a de plus riche dedans, c'est ce qui vient de l'extérieur. Chaque fois que j'ai une idée, cette idée est forgée en moi, bien sûr, mais cette idée, elle a été provoquée, très certainement, par le contact avec un autre, qui disait peut-être le contraire, qui disait la même chose, mais en tout cas, ce qui me rend intelligent, c'est ma capacité à rencontrer l'autre, et non pas ma capacité à imaginer tout seul comme un grand des idées nouvelles. Une idée ne peut pas appartenir à quelqu'un, sinon on débouche sur l'impossibilité, par exemple, d'être poète. Lorsque Rimbaud dit « je est un autre », c'est une idée astucieuse, mais est-ce que c'est une idée de Rimbaud tout seul, ou est-ce que c'est un jeu qu'il a créé dans cette discussion avec d'autres? Personne ne le sait, lui-même ne le sait pas, par conséquent ça ne peut pas être approprié. Finalement, il ne reste rien du mot propriété intellectuelle. Il y a des appropriations monstrueuses, comme l'appropriation de la possibilité de guérir quelqu'un avec un nouveau médicament. L'idée que ça soit soumis à un droit d'entrée, car c'est ça l'objectif de la propriété intellectuelle, cette idée-là me semble au minimum barbare, et au pire monstrueuse.
Au pire, monstrueuse. Albert Jacquard, enregistré donc par Politoscope TV, eh bien, qui nous a quitté donc à 87 ans d'une leucémie. Ben, on lui souhaite que son message reste dans les mémoires bien longtemps après son décès. Extrait à présent dans cette 177e divergence numérique que vous écoutez sur Divergence FM, Radio Larzac et Radio Escapade, Zoé Lila, extrait de l'album Digital Guilt. Le titre c'est Pop-Up et c'est sous licence Creative Commons by NCSA.
Like electrified strings vibrate out of-
Zoé Lila dans ce titre pop-up sous licence Creative Commons attribution, pas d'utilisation commerciale, partage dans les mêmes conditions, pour illustrer eh bien cette divergence numérique dans laquelle on va à présent parler du premier hackathon de Montpellier Agglomération qui se tient en ce moment même et depuis vendredi à l'hôtel de l'agglomération. Michel Aslagnan, vice-président de Montpellier Agglomération, à propos de ce première édition du hackathon Montpellier Unlimited, un concours ayant pour objectif d'imaginer, développer l'espace d'un week-end, une application autour des thèmes mobilité et environnement en s'appuyant sur des données publiques mises à disposition par Montpellier Agglomération et d'autres partenaires. Il y aura 3 prix à gagner qui iront de 5 000 à 2 000 euros tout de même. Montpellier-aglo.com/hackathon. Michel Aslagnan au micro de Divergence.
Nous sommes au téléphone avec Michel Aslagnan, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes vice-président de l'agglomération, président délégué de la commission innovation et de plein d'autres, mais c'est dans le cadre de vos activités sur le numérique qu'on vous reçoit. On avait déjà évoqué avec vous lors des 10 ans de l'Adulacte bien l'implication de l'agglomération en matière de logiciels libres. Et l'agglomération lance donc ce week-end, du 20 au 22 septembre, bien son premier hackathon, un concours sur 2 jours et 2 nuits pour concevoir la meilleure application mobile avec tout plein de prix, etc. Alors quel est le contexte qui a suscité la création de ce hackathon?
Alors un contexte général tout d'abord, puisque nous avons décidé au sein de l'agglomération de promouvoir l'ensemble de l'économie numérique sur notre territoire. Ça rentre un peu dans le cadre de l'appel d'offres qui a été lancé par le gouvernement. Donc il s'agit sur le moyen terme de trouver une économie qui va créer de la valeur ajoutée, de l'emploi sur le territoire. Parallèlement à ça, bien entendu, il n'y a pas que les entreprises, il y a aussi les citoyens. Et donc nous sommes rentrés dans une logique d'open data qui permet à tous les citoyens de pouvoir utiliser les données issues de l'agglomération pour leur fin personnelle. Leur fin personnelle, c'est des utilisations en vue de créer des applications pour permettre l'amélioration du quotidien. Alors bien évidemment, ces données sont brutes, donc ça veut dire qu'il faut un petit peu de travail. Nous, on sort des données de nos machines, il faut un petit peu de travail. Donc nous avons eu l'idée de remettre ces données de fond d'un concours, et pour la première fois, ça va être les données du transport qui vont être libérées, c'est-à-dire toutes les données sur les tramways, les horaires de passage, les vélomags, etc. Mmh. Et nous allons proposer, dans un concours quand même qui est richement doté, à plusieurs équipes de travailler pendant 48 heures, sous la forme évidemment d'un hackathon, qui est la contraction de hacker et marathon, hacker étant considéré non pas au niveau des pirates, mais plutôt au sens des gens qui améliorent les données dans leur environnement, pour qu'ils nous produisent, avec leur génie, avec leur créativité, l'application la plus intéressante pour que les Montpellierains et les citoyens de l'agglomération se déplacent et de la mobilité de façon plus efficace. Mmh, mmh.
Alors une compétition qui réunit une vingtaine d'équipes de 5 développeurs chacun, ça fait à peu près une centaine de personnes, avec une dotation de 5 000 euros pour le premier prix, 3 000 pour le second et puis 2 000 pour le prix du public. J'imagine que est-ce qu'il y a eu bousculade pour les inscriptions?
Alors oui, bien entendu, on a été obligé un petit peu de limiter, on a été un peu victime de notre succès. On a au départ prévu une salle qui peut-être sera un petit peu trop petite, mais enfin bon, c'est la rançon du succès. Ce qui est très intéressant, c'est que nous avons aussi positionné un prix du public. Alors il y aura un jury de professionnels qui va se réunir. Nos partenaires ont des noms prestigieux comme Dell, etc. Mais Dell, Epitech, l'Adulacte et compagnie. Mais on va aussi faire un prix du public où le public pourra voter sur Facebook pour son application préférée. Et il y aura un prix du public.
Comment ça va se passer concrètement? Est-ce qu'ils vont dormir pendant ces 2 jours et 2 nuits?
Oui, ça risque de sentir un peu le fauve dans la salle. Oui, ils dorment s'ils le peuvent. Effectivement, ils se relaient. Ils ont des équipes de 5, mais pas forcément 5. 5, c'était le maximum. Mm-hmm. Donc, il y a des équipes parfois un peu plus réduites. Oui, ils dorment. On a l'obligation d'avoir une présence continuelle par équipe. Ils travaillent. Ils ont 48 heures. Voilà, c'est ce que fait faire aujourd'hui la nouvelle génération de jeunes qui travaillent sur ces données-là.
Alors nous, c'est vrai que sur Divergence FM, dans Divergence Numérique, on souligne toujours le vrai sens du mot hacker, que les gens et les médias aussi qu'on confonde souvent avec le terme cracker qui lui désigne les méchants. c'est plutôt une bonne chose que vous soyez emparé un petit peu de ce vocabulaire, parce que quand une collectivité eh bien utilise on va dire les mots dans leur sens le plus noble du terme, ça permet aussi de faire bouger un petit peu les mentalités.
Oui, tout à fait, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, lors du prochain conseil d'agglomération, j'aurai l'occasion devant tous les élus de le resignaler. Et ce qui est important, c'est de faire comprendre à tout le monde que le numérique est une source phénoménale de valeur ajoutée positive à tous les niveaux, au niveau des individus, au niveau des entreprises, etc., et au niveau du territoire. Et il faut sortir un peu de ces problématiques pirates, prisons, environnement négatif, etc., parce que vraiment, l'avenir de notre territoire, il est entre les mains de ces gens-là.
Le jury va délibérer et les résultats seront connus quand ?
À 17h.
D'accord, ce dimanche
à 17h.
À 17h.
Oui, tout à fait. Il y a une remise des prix à 17h à l'agglomération. Nous remettrons les prix. On délibère dimanche après-midi, puisque le concours fait 48 heures. Les équipes nous présenteront leurs projets. Et puis derrière, nous annonçons les prix directement. C'est très intéressant parce que nous allons pouvoir aussi communiquer sur l'application qui aura gagné. L'équipe gagnante aura même la possibilité, si elle le veut, de transformer son premier prix en un an de logement dans notre pépinière de Cap Oméga, si elles veulent derrière créer une entreprise et participer au développement.
C'est plutôt un petit bonus non négligeable, il faut bien le souligner. On se fera un plaisir, peut-être dans la semaine prochaine, de recevoir les lauréats de cette première édition du Hackathon de Montpellier. Qui dit première édition dit aussi la volonté de renouveler l'expérience, de s'inscrire dans la durée.
Oui, tout à fait, c'est une vraie volonté. Aujourd'hui, il ne faut pas se cacher que les équipes qui se sont présentées sont plutôt des équipes locales. C'est quand même le hackathon le mieux doté actuellement en France. Donc ce qu'on va faire, c'est que nous allons communiquer derrière. Et je pense que dès l'année prochaine, nous aurons des équipes qui viendront de France entière. Il faut souligner d'ailleurs que la plupart des équipes sont des équipes d'étudiants, mais nous avons aussi des équipes de salariés de start-up qui viennent aussi proposer leur science dans ce concours.
Mmh. Alors pour les utilisateurs, j'imagine qu'il y a quand même dans le règlement du concours peut-être l'obligation pour ces candidats de développer une solution qui soit multiplateforme, je pense surtout au smartphone, etc.
Oui, bien sûr. Bien entendu, l'objectif, c'est vraiment de produire quelque chose qui soit utilisable par le citoyen. On n'est pas du tout dans le côté intellectuel. On est vraiment sur l'opérationnalité. Donc, la plateforme doit être faite pour les smartphones pour que tout habitant de l'agglomération puisse s'en servir. Mais vous savez, on est vraiment dans un domaine où tout est à créer. C'est-à-dire que nous, quand on se met autour d'une table et qu'on essaye d'imaginer ce que l'on peut faire avec les données, quelles qu'elles soient, et surtout le croisement des données, parce que c'est ça qui est intéressant, on s'aperçoit qu'on est vraiment à 5-6% d'imaginer ce que ça peut donner. Quand on regarde un petit peu ce qui se fait dans des villes qui sont très en avance, comme à San Francisco, aux États-Unis, on s'aperçoit qu'il y a des progrès extraordinaires qui sont faits, mais qui sont liés à la culture locale. Nous, chez nous, il va falloir qu'on invente des applications qui permettent vraiment de se déplacer mieux, de vivre mieux. On le fera aussi, peut-être un peu plus tard, avec des données sur les déchets, des données sur... Voilà. En fait, on fait une ouverture là-dessus. Si ça fonctionne, derrière, nous allons ouvrir, de toute façon, c'est la volonté de l'agglomération, d'ouvrir de plus en plus la totalité de ces données pour que, justement, on fait le pari de l'intelligence du citoyen pour qu'il crée effectivement des choses qui puissent intéresser tout le monde. En fait. Mmh.
Les logiciels, les applications qui vont être sélectionnées, est-ce que dans le règlement, il y a une licence sous laquelle ils vont être déposés? Est-ce que ce seront des applications logicielles libres ou pas?
Alors, en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce ne sont pas des applications qui appartiendront à l'agglomération. Hein. Nous n'avons pas, de légitimité à faire quelque chose là-dessus. On met nos données au service des entreprises et du public. Alors après, la façon dont ces applications vont être exploitées, ça n'est pas tout à fait défini. Ça dépendra un petit peu, de la teneur de ce qui va être produit. Ce qui est clair, c'est que nous estimons, nous, à l'agglomération, qu'un produit une application qui utiliserait des données publiques à des fins commerciales doit absolument avoir un retour sur, sur un succès, ce qu'on appelle un success fee, c'est-à-dire qu'une partie des bénéfices doit être réinvestie dans l'agglomération pour maintenir ces données à jour. Ça, c'est une règle qu'on s'est fixée dès le début quand on a réfléchi à la libération de nos données. Donc, en fonction du modèle économique qui sera bâti derrière par les gens qui voudront poursuivre ou pas le développement de leur application, il y aura certainement des contrats différents.
Voilà, je disais ça parce que dans le règlement, c'est vrai qu'il y a dans les dispositions, il y a le terme de propriété intellectuelle. Alors Albert Jacquard est hélas décédé ces jours-ci, lui qui avait démonté l'argumentaire de cette fameuse propriété intellectuelle. Mais on va pas faire une ellipse qui pourrait nous mener fort loin. Peut-être pour terminer dans le cadre plus général de l'actualité autour des nouvelles technologies, etc. Est-ce que vous auriez un commentaire à faire sur la valse hésitation qu'il y a eu sur la loi de modernisation de l'école? Et puis par la suite sur les universités où là, le logiciel libre a enfin trouvé sa priorité.
Qu'est-ce que je pourrais dire si ce n'est il était temps. Enfin, moi, je suis un ardent défenseur du logiciel libre. Hein, vous le savez, on en a déjà discuté. Je pense que l'économie numérique tout entière est en train de révolutionner nos concepts de propriété et d'économie générale. Et donc, il est temps, à tous les niveaux de la société, de réfléchir à un nouveau mode de fonctionnement. Alors, l'école et l'université en font partie. Aujourd'hui, on ne peut plus considérer tout ce système en entier comme on le considérait il y a ne serait-ce que 10 ans, 15 ans. Tout est en train d'évoluer. Et donc, il est temps que les politiques, la puissance publique réfléchissent très, très sérieusement à une ouverture totale sur ce genre de concept parce que sinon, on va continuer à rester engoncé dans nos logiques de fonctionnement et on va perdre du terrain par rapport à la concurrence internationale.
La route est longue, mais la voie est libre, la devise de Framasoft.
Oui, vous avez raison. En tout cas, j'ai l'habitude de dire que vous savez, la fameuse phrase de Lénine, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Je pense que si les politiques... Alors, c'est compliqué parce que ce sont des projets un peu complexes, des produits un peu nouveaux, et donc il faut sans arrêt expliquer. J'ai la chance, moi, d'avoir une formation scientifique, donc qui me met un petit peu plus devant par rapport à mes autres collègues élus, mais avec des gens comme, par exemple, Michael Delafosse à la mairie, nous sommes sans arrêt auprès de nos collègues élus à répéter, à convaincre, à donner de l'ambition à ces projets-là, parce que nous sommes convaincus que pour notre territoire, c'est vraiment l'avenir.
Michel Aslanan, je vous remercie de nous avoir accordé ces quelques minutes. On essaiera justement de donner suite et de recevoir les lauréats de ce concours, peut-être la semaine prochaine. En attendant,
n'hésitez pas.
En tout cas, bravo pour cette initiative et à très bientôt sur les ondes de Divergence.
Merci, au revoir.
Au revoir.
À présent, quelqu'un qu'on aime bien sur Divergence, dans Divergence numérique, c'est le professeur Click et ses musiques électroniques. Extrait de l'album Wire and Flashing Lights, le titre éponyme dans une version de Oshig. C'est sous licence Creative Commons, attribution, pas d'utilisation commerciale, partage dans les mêmes conditions, by NCS pour les intimes. Et on se retrouve tout de suite après pour la suite. C'était le professeur Click sur les ondes de divergence numérique. À présent, eh bien, les rendez-vous qui nous attendent ici en région avec ce 24 septembre de 9h à 12h, atelier Open Office et Libre Office à la médiathèque de Terran. Le même jour à Castelnau-le-Lez, ce sera installation de logiciels libres à la MJC André Malraux de 10h à midi. Atelier GIM de 17 à 18h ce 26 septembre, toujours à la médiathèque de Terran. À ne pas rater si vous êtes intéressé par OpenStreetMap, le groupe OSM Montpellier se réunira le 25 septembre à partir de 19h au Coworking Montpellier, 19 rue de l'École de Droit. Et puis ce vendredi 27 septembre de 18 à 20h, ce sera la fête de rentrée de la Maison pour tous Mélina Mercouri où les membres de Montpellier Libre seront présents. Pour le reste, agendadulibre.org pour l'Hexagone, .be.ch, .qc.ca pour les autres. La semaine prochaine, c'est Alexis Kaufmann qui sera avec nous, puisque Pascal Rullier sera de retour autour du domaine public et du fait que Apollinaire, Guillaume de son prénom, va tomber fin septembre dans le domaine public, soit un total de 94 ans et 272 jours de droit d'auteur. Car ayant combattu 2 ans et ayant été blessé par un obus en 1916, ces ayants droit ont joui d'une prolongation de 30 ans du copyright. Émission donc spéciale sur le domaine public avec Alexis Kaufmann de Framasoft qui sera dans les studios de Divergence FM. On se quitte avec Kids in Toyland, des enfants au pays des jouets. C'est Fresh Body Shop qui interprète ça, extrait de l'album du même nom, Kids in Toyland. Une œuvre mise à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution. Pas d'utilisation commerciale, pas de modification. Creative Commons CC by NCND. On vous souhaite une excellente semaine et restez libres.
Vous ne savez pas pourquoi vous aimez les loutres, mais vous savez pourquoi vous aimez les logiciels libres.
Hi, you're listening to Divergence FM on 93.9.